Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr, votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Alors aujourd'hui, podcast numéro 50 de l'histoire de Gameblog. Pour cela, bien évidemment, une partie de la rédaction s'est réunie autour de la table à repasser, oui, que j'aime bien, et que vous commencez à apprécier aussi chez vous, hein, je le sais. Alors, Julo, Raon, Caf sont parmi nous aujourd'hui pour parler de ce qui fait l'actualité aujourd'hui, en tout cas pour tous ceux qui ont une PlayStation 3, à savoir le lancement de Gran Turismo 5 Prologue. Je me tourne vers vous, l'un des premières peut-être débuts de killer app de la PlayStation 3.
On peut dire ça comme ça, surtout pour le marché européen, même si effectivement parler de ce qui s'apparente à une démo,
c'est ça.
Ouais,
c'est ça.
Voilà, en parler comme d'une killer app, c'est un peu s'aventurer dans des. Voilà.
On va y revenir justement tout à l'heure, un petit peu plus tard dans le podcast, pour savoir justement est-ce vraiment un vrai jeu qui mérite ses 40 euros ou plutôt une
est-ce
démo
qu'il y aura
déguisée.
Un Gran Turismo 5 aussi surtout.
Ça, a priori,
s'il
est
à 40, oui. il arrive. Sera pas cher, hein.
Sur PlayStation 4 peut-être.
Mais en tout cas, ça nous permet de faire aujourd'hui une saga, une grande saga sur Gran Turismo. Alors Gran Turismo, c'est un jeu quand même assez exceptionnel, une série mythique, puisqu'elle s'est vendue aujourd'hui, en près de 11 ans d'existence, à plus de 47 millions d'exemplaires dans le monde.
Michael Jackson, bonjour.
Franchement, ouais, enfin Michael Jackson, c'est 104 millions d'exemplaires rien que pour l'album Thriller, hein,
ah
l'album
oui,
le plus vendu de tous les temps.
Pardon,
ça vous met quand même tout de suite un petit ordre d'idées, un petit ratio. Alors, on commence directement, forcément, avec la révolution du Gran Turismo en 97, son arrivée sur PlayStation 1. Le jeu qui sera le jeu le plus vendu de toute l'histoire de la PS1 avec quasiment 11 millions d'exemplaires à lui tout seul. Pourtant, au début, tout n'était pas gagné. D'ailleurs, on va repartir un petit peu en arrière, 5 ans en avance, puisque ce jeu a une gestation assez longue. Et on doit surtout ce jeu à un homme, c'est Kazunori Yamauchi. Qu'est-ce qu'on peut dire
déjà Julo sourit quand il le prononce.
Julo, corrige-le tout de suite.
Yamauchi. Julo, merci.
J'ai rien dit.
Donc voilà, il est arrivé à l'époque de la chez Sony en 94 avec un premier jeu qui n'avait rien à voir avec Gran Turismo.
Si ce n'est que c'était quand même de la course.
Exactement.
Voilà, Motor Toon Grand Prix.
Exactement. Est-ce que vous vous en souvenez un petit peu?
Très
ouais,
bien.
Ouais. Il y avait un super rendu 3D en fait, qui était un peu
c'était
novateur
pour
l'époque.
C'était Toonesque, ouais.
C'était surtout l'animation en fait, parce que je crois que c'était gros shadé à l'époque, il n'y avait pas vraiment de texture encore.
Non, mais c'était avec les bagnoles qui se déformaient, etc.
Ouais, quand tu les virages, ça faisait moing.
C'était un peu jelly, quoi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, les voitures étaient en gelée anglaise, quoi. Mm-hmm.
Et c'était assez rigolo.
C'était plutôt un bon jeu en plus.
Un jeu de lancement.
C'était une sorte de précurseur des Crash Team Racing, etc. Et l'équivalent d'un Mario Kart pour l'époque pour Sony, avec une image différente, quoi.
C'était une démo technique que je mets un peu au niveau de Toshinden.
Ah oui, oui.
Dans le genre.
D'ailleurs, c'était du gros shading aussi dans Toshinden.
Mais voilà, mais c'est le truc qui nous a un peu. Attends, c'est super beau. Maintenant, c'est pas un jeu qui a marqué au-delà, tu vois.
Non, bien sûr. Mais alors, c'était justement pourquoi on en parle.
C'est important.
Et oui, il y a un deuxième épisode, effectivement. Mais ça, c'était surtout pour se faire la main, pour comprendre un petit peu les logiciels de développement de la PS1. Cerner un petit peu les tenants et aboutissants, puisque on le dit, 5 ans de développement pour le premier Gran Turismo, celui qui était sous-titré The Real Driving Simulator, ouais. le simulateur ultime de conduite. Alors, est-ce que vous vous rappelez un petit peu l'impact qu'a eu ce jeu en 97 lors de son lancement?
Là, on a perdu Traz.
Ouais, c'est ça. Il y avait Traz qui est resté enfermé dans son bureau pendant des semaines. Je crois que c'était avec la version japonaise.
Oui.
Et puis il essayait de nous expliquer à quel point c'était.
On s'est fait gauler des PS1 aussi par la rédaction de Joystick à l'époque.
Exact.
Parce qu'effectivement, eux, ils avaient des vraies simulations. Puis quand c'est arrivé, finalement, ils ont trouvé que c'était pas si mal que ça, les petits jeux de bagnole sur console, tu vois.
Bah ouais, c'était ultra novateur. On était loin du jeu d'arcade que pouvait être Ridge Racer, qu'on a tous connu au lancement de la PS1. C'était une révolution par le contenu et puis par la réalisation qui misait tout sur le réalisme, en fait.
Voilà, justement, en parlant de contenu, pour resituer un petit peu, Gran Turismo. En 97, premier jeu de la série, c'est déjà 11 courses, ça à la limite c'est pas exceptionnel.
Mais à l'époque,
c'était pas mal,
voilà,
c'était pas mal, puisqu'on se rappelle des Ridge Racer avec 4-5 circuits,
3 circuits,
le mode
miroir qui doublait. Bon, bah là c'est 11 courses de base et 178 véhicules,
ce qui était hallucinant.
C'était du jamais vu.
Voilà, c'était tout simplement du jamais vu, c'était énormissime. Tous bien sûr sous licence officielle. Alors attention, avec énormément de véhicules japonais,
quasiment que ça dans le premier.
Quasiment que ça.
Il y avait déjà des trucs futuristes. pistes dans les bagnoles
des protos, tu veux venir
des protos ou pas, il y avait des je trucs
je non, pas. Non, je m'en souviens pas,
non c'était que des bagnoles réelles
ouais, très réelles ouais, certaines d'ailleurs assez pourries hein, il y avait, c'était ça aussi d'ailleurs qui était la marque de fabrique un petit peu de Gran Turismo, oui. C'était qu'il y avait pas que des voitures on va dire luxueuses ou avec moteur énorme, des V5 V6,
c'était même surtout qu'on t'obligeait à commencer finalement
à la base,
voilà, à la manière d'un RPG un peu, commencer petit et monter en puissance.
Ouais, et ça c'était un truc qui était nouveau aussi dans ce type de jeu de bagnole, c'était le système de progression.
Les permis, les fameux,
voilà,
permis.
Les fameux permis et tout ça, c'était un truc. Il y avait vraiment une progression dans le gameplay.
Alors il y avait pas que, ça en plus. Il y avait les permis. En fait, tout était centralisé dans un hub. C'était une espèce de petite map où tu pouvais aller de constructeur en constructeur.
Passer au garage.
Aller dans le garage.
Nettoyer sa voiture.
Le garage, c'était un nouveau concept aussi. Voilà, ouais. tu pouvais faire un tas de trucs comme ça. Et puis, tu avais surtout, et ça c'était vraiment énorme, toute la customisation des bagnoles, donc les réglages, l'ajout de nouveaux moteurs, enfin tu pouvais tout changer, etc. Et tu avais une progression comme ça, donc par la thune, parce qu'il fallait gagner de la thune pour augmenter tout, etc. Qui était, enfin voilà, c'était un jeu de bagnole que tu vivais un peu comme un
jeu de rôle un petit peu,
RPG un peu. Et où tu devais grimper, monter en puissance, et puis c'était un
tous trip les autres jeux de bagnole ensuite se sont inspirés de ce système-là. Hein.
Mmh. Et c'était génial parce que cette montée en puissance, tu la ressentais vraiment du fait que le jeu était hyper réaliste. Et quand tu prenais ton premier 4x4 Mitsubishi et que tu démarrais en trombe, tu voyais vraiment une différence énorme.
Ouais, c'est ça. Au niveau du ressenti.
Virtuellement scotché à ton siège baquet, quoi.
Est-ce que vous trouvez pas justement que c'est là que Gran Turismo a vraiment mis sa marque de fabrique, c'est aussi sur l'aspect collectionnite aiguë, c'est-à-dire que vraiment tous les fanatiques de voitures, de belle carrosserie, on rappelle, hein, dans le garage on pouvait nettoyer sa voiture, la lustrer, ça servait à rien mais ça coûtait quand même un petit peu d'argent virtuel du jeu, pour avoir une belle voiture. Plus tard, en fonction de ses résultats des courses, on pouvait effectivement s'acheter deux meilleures voitures, ce genre de choses. Cette progression-là a apporté aussi beaucoup dans l'intérêt du jeu.
Complètement. Ouais, c'est certain. Les fanats de bagnole, c'est ce qui a fait aussi la grosse différence, mais c'était vraiment un tout, quoi.
Et en plus, tu revoyais, comme tu disais, il y avait des petites voitures dans le sens des voitures accessibles aux commandes mortelles, et donc les gens avaient leur voiture.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Donc ça aussi, c'était... pour tous les gens qui aimaient les caisses, c'était un trip, quoi, surtout qu'elles étaient ultra bien modélisées, quoi.
Pour l'époque, carrément. Oui, on voyait aussi, même, il y avait le jeu des suspensions, ce genre de choses qui apportait un petit peu plus de réalisme par rapport à d'habitude, même si... Déjà à l'époque, on pouvait critiquer un petit peu dans l'absolu l'intelligence artificielle des concurrents qui avaient un petit peu tendance à aller toujours tout droit, avoir la trajectoire ligne, parfaite, propre, etc. Julo.
Et c'est aussi le premier jeu de caisse où on pouvait rester scotché devant toute sa course en mode replay, parce que les replays étaient juste incroyables.
Ouais, c'est une marque de fabrique de GT. Quoi.
Revoir ta course exactement telle que tu l'as faite, avec des angles super bien foutus, et puis comme tu dis, ces suspensions qui fonctionnaient dans les virages, tout était réaliste, et c'était un bonheur de les regarder, quoi. Mm-hmm.
On se rappelle qu'à l'époque, il y avait l'optimiseur de PS1, on voyait que ce jeu était l'un des plus aboutis, optimisait quasiment 100% la PS1.
Ah oui, tu parles de leur outil d'optimisation.
D'optimisation,
qui est sorti à peu près en même temps, effectivement, et dont GTA a été
un des premiers jeux
à tirer parti. Ouais.
Alors, justement, l'une des choses qui est très importante, c'est le personnage derrière, le producteur derrière toute cette série, Kazunori, donc Yamauchi, c'est comme ça dit, Julo.
Tu confirmes ?
Bon, parfait. Et là, je me tourne plus vers CAF, parce que, en fait, tout ça, ce mec est assez particulier. Hein. C'est vraiment lui qui tient Gran Turismo, c'est lui qui l'incarne à chaque représentation, à chaque E3, à chaque présentation officielle des jeux, et plus encore avec la série lorsqu'elle s'est prolongée. Mais c'est un fanatique de voitures, c'est un fanatique de précision, c'est un fétichiste, et en fait il a commencé, l'idée même de Gran Turismo lui est venue en 92, donc quelques années auparavant, lorsqu'il a pour la première fois joué à un jeu, et là je me tourne vers toi Kaf parce que c'est sur PC qu'il s'agit, c'était Grand Prix, le jeu, la référence à l'époque de George Crimond.
Exact, ouais, qui est un...
Qu'est-ce qu'apportait ce jeu à l'époque ?
C'est un truc de psychopathe, en fait. C'est-à-dire que c'était la simulation de F1 où tu peux tout régler, mais vraiment, et qui était d'une précision diabolique. Donc, mais ça allait jusque dans les pneus, est-ce que tes pneus sont assez chauds, etc. Et c'était... Grand Prix reste... Enfin, c'était la référence absolue, quoi. Mm-hmm. Et par contre, effectivement, t'avais pas les modes replay, les machins. L'emballage était quand même assez austère. Et il fallait être passionné de caisse, vraiment. Parce que moi, de toute façon, je sortais du garage, je prenais le premier virage, j'allais dans le bac à sable. La simulation étant, mais elle était redoutable. Enfin, déjà, t'avais pas de volant, t'y joues pas, quoi. Fin d'histoire. Et le produit était réellement révolutionnaire parce que Jack Bramman, sur ce truc-là, c'était vraiment Mais c'est un psychopathe, vraiment, le mec. Il fallait que tout soit modélisé, que les amortisseurs réagissent indépendamment, que les règles de la physique. La voiture, si tu veux, c'est comme un simulateur de vol. C'est pas une voiture qui va sur un plan, non. C'est, et ça modélise des flux d'air sur le truc dans les derniers. Enfin, c'est,
les transferts de masse et tout ça.
La portance, c'est la merde. La règle pour coller la caisse à la bagnole, c'est un truc physique, quoi. Mm-hmm. Donc tout doit être vrai, quoi. Je pense que c'est là-dessus qu'il a kiffé, évidemment, quoi.
Et justement, du coup, c'est la première fois sur console qu'on a un jeu vraiment simulation, parce qu'on était effectivement, il y a pu s'habituer à des Ridge Racer, des Mario Kart. Il y avait eu certains essais qui avaient été faits avec des F1 Grand Prix ou ce genre de choses, mais enfin qui restaient quand même très basiques.
Ouais. Les Formula 1 étaient pas mal quand même par rapport pour la console, mais c'est vrai que par rapport au simulateur de F1 qui était disponible sur PC, c'était pas encore ça.
Bah, le but de Gran Turismo en plus, c'est complètement délirant, parce qu'on te dit on va faire 178 bagnoles et les comportements et les bruits des moteurs et les machins vont tous être différents. Donc même avec la techno de l'époque, quand on y va, avec leur cul, tu te dis, putain, il a mis 5 ans à le sortir. C'est déjà énorme que ça n'a pas été une énorme bouse. Parce que c'est super dur à faire, quoi.
Oui, parce qu'en plus, ils ont été récupérés les données constructeurs. C'était la première fois qu'il y avait un projet de cette ampleur-là aussi. Par rapport à l'industrie automobile, il fallait quand même aller pouvoir récupérer des choses pour pouvoir leur aider à faire des bons modèles, essayer des voitures, etc. C'était vraiment un boulot de titan. Et moi, je trouve ça déjà incroyable qu'ils aient réussi à faire ça en 5 ans. C'est hallucinant.
Et puis alors, il faut se rappeler aussi quelque chose, c'est l'introduction. Ce jeu a aussi marqué un petit peu les esprits et les gens, parce que la manière de jouer était aussi un petit peu différente. C'est l'apparition du DualShock sur PS1. Donc la première fois où on a une manette avec stick analogique, du coup, pour pouvoir doser un petit peu plus finement ses trajectoires, mais aussi sa vitesse, puisqu'on pouvait jouer en montant ou baissant le stick, c'était pas évident.
J'ai toujours joué comme ça avec Gran Turismo depuis le premier. C'est effectivement le stick de gauche pour la direction, le stick de droite pour l'accélération et le freinage. Et c'était juste génial parce que le dosage avait vraiment une importance dans le jeu, surtout quand tu commençais à avoir des caisses un peu puissantes. Il fallait pas partir en vrille parce que tu allais trop vite et que tu avais mal négocié une entrée de virage, etc. L'important, c'était toujours de sortir très vite. Enfin, les règles de pilotage que
tu
apprends dans les
écoles. Mais des fois, tu accélères et tu freines en même temps et tu peux pas avec ce système.
Et donc, le dosage pour éviter de faire trop crisser les pneus, de partir en sucette, etc., c'était génial avec les sticks.
Donc voilà, le début d'un véritable phénomène, on se rappelle, c'était en 97. Alors fatalement, il fallait une suite sur laquelle Polyphonie Digital allait travailler, puisqu'en avril 98, donc quelques mois après la sortie du premier épisode, Kazunori prend la tête de cette société pour vraiment se dédier quasiment exclusivement, l'exception d'un sombre jeu.
Omega Boost.
Omega Boost, exactement.
Espèce de shoot spatial avec des robots.
Qui était pas mauvais.
Qui était pas mauvais.
Qui, selon toujours l'Optimizer de la PlayStation à l'époque, était l'un des jeux qui utilisait le plus les capacités de la PS1.
Et oui, vive le marketing.
Voilà, c'était très bien. Enfin, en termes ludiques, c'était pas gagné. Mais enfin bon, il fallait donc une suite. Ils ont travaillé dessus. Elle arrive quelques temps après, on est en 99. Un succès gigantesque une fois de plus. Un petit peu moins important, puisque à l'échelle mondiale, c'est légèrement en dessous des 10 millions de ventes. C'est 9 400 000 à peu près.
Oh,
ça reste un peu absolument incroyable. Mais alors, pas mal de nouveautés sur ce Gran Turismo 2. Alors déjà, un petit peu amélioré graphiquement, même si certaines personnes avaient trouvé que les voitures étaient mieux modélisées, mais que les décors en avaient un peu pâti. Mais alors, c'est surtout l'apparition de pas mal de nouveautés. Déjà, première chose, deux disques.
Ouais, alors d'un côté, tu avais le mode Gran Turismo, donc le mode qui avait fait le succès du jeu. Voilà, c'était le côté novateur, donc tout ce principe de monter en puissance, etc. Et pour tous les joueurs qui étaient plus dans l'immédiat, etc., donc tu avais un autre CD qui était le mode arcade. Parce que tu avais un mode arcade sur un CD séparé, où tu avais directement toute une sélection de bagnoles, c'était un peu moins réaliste.
On pouvait commencer déjà de base.
Jouer à deux avec un pote.
C'est le CD que j'utilisais.
Alors, est-ce que vous. Bon, alors pour ce Gran Turismo 2.
J'ai jamais utilisé, moi, perso.
Et puis, alors, bien évidemment, quand on avait un jeu comme Gran Turismo, il fallait faire plus que deux fois mieux. Donc là, c'est plus 11 courses, mais c'est 28 courses. Donc on booste carrément. C'est l'apparition aussi pour la première fois dans la série d'un circuit réaliste, réel, le fameux circuit de Laguna Seca, avec son espèce de grand virage en dévers.
Tu
t'en souviens,
Julio ? J'adore ce circuit et à chaque fois, du coup, je le connais par cœur maintenant parce qu'il a été repris aussi dans plein d'autres jeux.
C'est un classique.
C'est un grand classique et puis ce virage est extraordinaire.
Voilà, donc une fois de plus pour renforcer l'immersion, il y avait aussi l'apparition pour la première fois des cours sur Terre.
Rallye un peu.
Alors est-ce que ça changeait des choses, Julio ? Tu t'en rappelles ?
Moi, j'avais pas trouvé ça extraordinaire.
Mais personne en fait à l'époque. Beaucoup de gens attendaient ça, mais il y avait d'autres jeux qui se spécialisaient dans le rallye et qui s'en sortaient un peu mieux.
Colin McRae par exemple.
Colin McRae notamment. Exactement, ouais. Surtout Colin McRae.
Surtout Colin McRae, voilà. Donc, il a pas, le 2 n'a pas vraiment brillé pour son côté rallye, quoi. Mm-hmm. C'est vrai que c'était un plus qui était peut-être agréable, mais ouais, pour les spécialistes de la caisse, c'était pas à niveau.
C'était bien de l'avoir, hein. C'était une fois de plus. Voilà. C'était blindé de contenu.
Blindé de contenu, ça, clairement, puisque une fois de plus, toujours dans la comparaison, Gran Turismo 1 faisait 178 véhicules. Là, il faut compter avec 650 bagnoles. Alors, on frise les 1000 voitures.
Cela dit, hein, tu avais plein de modèles de NSX, plein de modèles de machin, etc. Bon, bref,
alors, justement, c'est à partir néanmoins de ce 2, malgré son succès gigantesque, y a certaines critiques qui commencent à voir le jour. Autant le premier était tellement révolutionnaire, apportait tellement de choses que fatalement,
on pouvait pas lui reprocher. On voyait même pas quoi lui reprocher à l'époque.
Exactement. Autant dans le 2, on commençait à souligner effectivement le fait que plus de la moitié des véhicules étaient des véhicules japonais, alors avec des voitures parfois, des petites Nissan, ce genre de choses, qui finalement c'est sympa de les avoir, mais quand elles sont déclinées en 22 modèles différents, l'un avec aileron, l'autre avec une peinture verte ou quoi que ce soit, finalement ça fait gonfler un peu artificiellement ce fameux chiffre des 650 véhicules. Et puis surtout,
surtout les vraies critiques.
Aussi de gros constructeurs, pas de Ferrari, pas de Porsche, alors que d'autres jeux les avaient. Alors bien sûr, des contrats d'exclusivité, ce genre de choses. Mais surtout, voilà, des vraies critiques. Voilà. On commence avec quoi ? Avec l'intelligence artificielle, par exemple ?
Ouais, alors l'intelligence artificielle, c'est clair qu'elle n'était vraiment pas développée dans Gran Turismo. Les concurrents se comportaient comme des abrutis. Ils te fonçaient dedans, ils étaient sur des rails.
Ouais.
Vraiment sur des rails. Donc tu avais ce souci d'intelligence artificielle, tu avais aussi le souci des collisions, des gros coupages de gorée sur la pelouse, etc. Tu pouvais t'appuyer, en gros, t'arrivais à fond dans un virage, voilà. Et tu t'appuyais sur une caisse parce que de toute façon cette caisse ne bougeait pas de son rail, donc ça te remettait toi-même en course. C'était toujours dans l'idée de réalisme absolu, etc. C'est un truc qui a commencé à énerver dès le deuxième épisode, quoi.
Alors autre chose, une fois de plus, on souligne The Real Driving Simulator. Alors aucune déformation, aucun accident,
ça c'est super,
rien.
Ça a toujours gavé.
Ouais, ça c'est quand même étonnant.
Au bout d'un moment,
ça se voit, quoi.
Boom. Tu perdais ta vitesse. Et faut réaccélérer. Puis en début de jeu, quand t'as les caisses de merde, ça met juste 1000 ans, quoi.
Et encore, si tu te démerdais bien, tu perdais pas trop de vitesse. Hein, puisque la vraie perte de vitesse, la sanction au niveau de la collision apparaît bien plus tard, on va le voir, hein, surtout au niveau de Gran Turismo 4. Donc oui, c'est vrai qu'il y avait quelques petites choses qui laissaient...
C'était surtout contradictoire par rapport au fait que ça devait être un simulateur, quoi. Donc un simulateur où tu pouvais pas retourner ta bagnole ou faire des tonneaux... Parce que je crois que tu pouvais même pas faire des têtes à queue de la mort, quoi, à l'époque. Donc même un tête à queue, tu pouvais pas.
Alors que Grand Prix,
des têtes à queue, bien sûr. Si. Donc, par contre, tu pouvais rentrer à fond la caisse à 200 km/h dans un mur, il se passait rien. Mais les têtes à queue, oui, depuis le premier, justement, c'est un des trucs, tu pouvais perdre le contrôle vraiment de ta caisse.
C'est un truc qu'il a oublié quand il s'est inspiré de Grand Prix, ça, tu vois. Parce que tu perdais tes roues avant. Tiens, c'est quoi ? C'est marrant.
Et puis, il y avait déjà pas mal de jeux de caisse avec des déformations, donc c'était un truc techniquement possible.
Attends, mais Destruction Derby, mec !
Ouais, tout à fait, c'est jeu de merde.
Tout premier.
Ce jeu de merde, putain, c'était mon jeu préféré.
Alors justement, à ça, Kazunori avait une manière très simple de répondre.
Alors attends, finir parce qu'il y a autre chose.
C'était justement, on en parlait tout à l'heure, son amour de la voiture, son côté très perfectionniste. Et bien justement, il disait, on peut pas abîmer les voitures parce que les constructeurs ne me le permettent pas, ne veulent pas montrer une mauvaise image.
C'est à quoi tout le monde répondait, et les autres comment ils font.
Voilà.
À l'époque, on le croyait. À l'époque, on le croyait. Puis à force,
ça passait un petit peu.
Il y a un autre truc aussi dans le même genre. Réponse de Yamauchi. On parlait aussi beaucoup de l'absence de pilotes dans les voitures. Ouais. C'était tous des K2000 en puissance, donc elles se conduisaient toutes seules. Il y avait personne dedans.
Ah oui, c'est vrai. Putain, voilà. J'avais oublié.
Ce à quoi Kazunori Yamauchi avait répondu. Le héros de Gran Turismo, c'est la voiture. Ouais. C'est pas le pilote.
Comment voilà. Il a la classe.
Et donc voilà, c'est tout. Et non, mais sinon, dans les défauts de Gran Turismo 2, il faut noter aussi qu'à l'époque, le jeu avait été rushé en fin de développement. Et il était sorti avec des bugs, mais complètement hallucinants, qui avaient fait scandale, quoi. T'avais notamment un bug qui effaçait l'intégralité de ton garage parce que t'avais fait je sais pas quoi.
Ça fait un peu désarmant.
Ouais. Non, mais surtout,
j'ai 722 voitures.
J'ai 722
voitures. J'en ai plus une seule.
J'ai dépensé 1 milliard de crédits. J'ai joué pendant des jours et des nuits pour en arriver là et tout effacé. Voilà.
Ça, donc, ça le fait pas, ça.
Ouais, ils avaient ressorti une version corrigée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de.
Il n'y avait pas les patchs.
De patch online. Voilà.
Putain,
ça, c'est surtout quelque chose qui avait sévi aux États-Unis. Hein.
Oui. Alors sur la version européenne, je sais pas, mais en tout cas sur la version américaine, oui. Mais il y avait quand même d'autres bugs qui étaient restés. Enfin bref, il était rushé. Le jeu.
Alors justement, parlons de version européenne par rapport aux autres, il faut bien se rendre compte que, à l'exception en fait de Gran Turismo 3 dont on va parler dans quelques instants, donc Gran Turismo 3 A-Spec qui était sorti sur PlayStation 3, eh bien
Sur PlayStation 3.
Sur PlayStation 2, pardon. Eh bien, l'intégralité de la série Gran Turismo, c'est toujours bien mieux vendu sur le territoire européen. Mm. Finalement, territoire un petit peu des amoureux de voitures. Hein. On le voit par exemple avec la Formule 1. Hein. Oui. Et le succès que la Formule 1 rencontre aux États-Unis.
Ouais, mais ils ont le NASCAR,
ils ont l'Indy,
ouais, ils ont autre chose. Hein.
Certes, enfin visiblement, en tout cas, c'est vraiment en Europe que ça marchait le mieux. Du coup, il y avait toujours un effort très particulier fait sur la version européenne. Alors, par exemple, on se rappelle hein, d'à chaque fois des intros qui étaient refaites. Il y avait la musique des Cardigans.
Ouais, j'étais deg, hein, parce que.
Je préfère la version de Jap, moi.
Ouais, la musique d'intro du.
Comme vous avez entendu en tout début de podcast.
Ouais, ouais. Donc, ouais, cette musique était géniale ici.
Mais grave.
Bon, cela dit, c'était.
Cardigans, you're my favorite game.
Gran Turismo, elle s'appelait.
Grand
non, c'est l'album qui s'appelait Gran Turismo.
L'album.
Ouais. Donc ça, c'est quand même plutôt bien vu. Et alors, autre truc complètement marketing, mais enfin qui avait fait sourire pas mal de personnes à l'époque, c'était que sur le deuxième CD donc, de cette version de Gran Turismo 2, eh ben, il y avait une espèce de surface un petit peu à frotter, à gratter. Et lorsqu'on le frottait très très fort, eh ben, ça sentait
la gomme chauffée.
Voilà, c'était
l'ongle fondu
si tu veux. Enfin, c'était assez amusant, surtout que certaines personnes avaient noté que lorsqu'on laissait tourner le CD très très longtemps, genre on faisait des parties de plus de 10 heures, bah du coup ça, la console sentait un peu le bitume, quoi. C'était un petit truc bien vu, vite fait, marketing. Mais enfin bon, qui veut bien dire le soin que Yamauchi à chaque fois portait à son jeu, pour lui c'est vraiment un bijou. Il
l'importance qu'a pris Gran Turismo très rapidement pour la marque PlayStation aussi.
Ah bah complètement. Hein. C'est le jeu Sony le plus vendu de tous les temps, hein, tout simplement. Voilà, alors après quelques années, il aura fallu attendre, pas tant que temps en fait, 2 ans, la sortie de la PlayStation 2, pour voir arriver Gran Turismo 3 Aspect. Et alors là, je crois que si on se replace à l'époque, on s'est quand même tous pris une méga belle baffe. Ouais. Hein,
ça a été le premier jeu à dire, voilà, vous êtes sur PlayStation 2.
Ouais.
Et c'est ce qui manque peut-être à la PlayStation 3 à l'heure actuelle, mais bon, ça c'est un autre débat.
Alors, qu'est-ce que ce jeu apportait? Est-ce que vous vous en rappelez un petit peu?
J'ai envie de dire plus de voitures. Non, il y en avait un peu moins, je crois.
Il y en avait un petit peu moins.
Il y en avait moins que dans le 2. Ça a apporté la baffe technologique.
La première fois, justement, on voyait aussi les pilotes modélisés à l'intérieur des voitures.
Voilà, alors, ils ne bougeaient pas.
Ouais, ils ne bougeaient pas. Non, ils étaient stoïques, droits comme un i. Mais alors, ce qui était assez intéressant, c'était de voir tous les circuits que finalement on connaissait. Parce que Gran Turismo, depuis le début, finalement, c'est toujours recycler les mêmes circuits, les mêmes voitures, mais toujours, c'est une upgrade à chaque fois technique, bluffante. Hein, à chaque fois, c'est une baffe.
Des décors mais toujours plus fouillés.
Mais on se retrouve toujours un petit peu dans le même univers quand même.
Ouais. Et toujours avec les mêmes défauts, surtout, j'ai l'impression, moi.
Les bagnoles qui se déforment pas, il y a toujours assez à chier.
T'avais plus de circuits réels aussi, parce qu'il n'y avait que Laguna Seca dans le 2.
Ouais, il y en avait plus.
Ouais. Un petit peu plus de circuits
réels.
Mais
bon, c'était Gran Turismo version nouvelle génération, donc qui tuait la gueule. Et voilà,
apparition aussi d'espèces de Formule 1 à l'époque, enfin de nouveaux styles de voitures, apparition de plus de licences de véhicules, toujours pareil, plus de circuits, et puis surtout le record absolu hein, pour toute la série, à ce jour en tout cas, puisque les épisodes dont on va parler dans quelques instants n'ont jamais réussi à dépasser ce chiffre. Gran Turismo 3 Aspect, c'est quasiment 15 millions d'exemplaires hein, dans le monde.
Ouais, la carte donc de visite de la PS2.
Voilà, c'est un petit peu ça, ça pose un petit peu le jeu, c'est juste une tuerie colossale, et effectivement, Raoul le souligne à raison, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui à la PS3, c'est d'avoir ces jeux porte-étendard qui à la fois techniquement montrent à quel point ça enterre toute la concurrence, et à la fois c'est fédérateur.
C'est plus que ça, il y a des gens qui ont des PS2 qui étaient là que pour jouer à Gran Turismo et, ou à PES.
C'est un PES,
Gran Turismo, les mecs ils ont que ça pour leur console, le reste ils s'en foutent, ils rentrent, ils font une partie de Gran Turismo, ils sont contents et fini quoi. Donc bon, c'est vrai que là, pour l'instant, la PS3...
Moi, je vois pas mal comment ce record de vente pourrait être battu, étant donné que...
La base installée.
Étant donné la base installée...
Il faudrait que tout le monde...
Ne jurons de rien, on verra bien. Mais
on verra bien, alors faut qu'il sorte tard.
Ça peut cartonner sur la GTA 5. Sur des consoles, surtout. Mais voilà.
Surtout que les Gran Turismo sont généralement des longs sellers, c'est-à-dire c'est des jeux qui se vendent chaque année.
Chaque nouveau mec qui achète une PlayStation, hop, il prend Gran Turismo.
Le gros des ventes se fait pas sur les 3 premiers jours de lancement.
C'est clair.
Voilà. Alors après, on sent comme une sorte de virage quand même au niveau de la série des Gran Turismo. C'est le côté mercantile qui commence vraiment à prendre le dessus.
Oh oui.
Puisque bon, succès hallucinant, bien sûr, personne ne peut le renier. Mais alors, on commence à voir arriver plein de petites versions diverses et variées qu'on va citer très rapidement, qui ont dans l'absolu pas apporté grand chose, hein, qui sont des sortes de vitrines pour certains constructeurs, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle les démo disques. Donc, il y a eu des démos disques de la Toyota Prius. Ça veut dire que c'est un jeu, une sorte de démo, version courte des Gran Turismo, dédié à ces versions, à ces véhicules là de la marque. Il y en a eu aussi pour la BMW 1 Series, pour la Nissan Micra, pour la Nissan 350Z. En gros, quatre démo disques qui étaient vraiment dédiés pour les fanatiques de cette voiture, donc avec plus d'options d'amélioration des véhicules.
Payé par le marketing quand même. Là,
exactement.
Payé parce par le marketing. La Nissan Micra, excuse-moi, mais je connais pas trop les fans.
Pas tous sortis en dehors du Japon.
Ah non.
C'était une tentative pour vendre aux fans.
Je crois que dans les concepts, Gran Turismo Concept, t'en as eu 15 qui est sorti en Europe.
Ouais. Et alors des Gran Turismo Concept, justement, on en parle aussi, puisque ça c'est autre chose encore pour entre deux épisodes, puisque on le sait, il faut de plus en plus de temps pour faire un Gran Turismo. On reviendra dessus dans quelques instants. Et ben il fallait quand même alimenter un petit peu les fanatiques de simulation automobile. Donc il y a eu GT
et les
Concept.
Caisses de Sony.
Voilà, il y a eu GT Concept 2001 Tokyo, suivi d'un GT Concept 2002. Tokyo-Séoul, suivi d'un GT Concept 2002 Tokyo-Geneva, donc à chaque fois, hein, comme ça.
Voilà, avec des nouvelles concepts cars.
Voilà, des concepts cars, avec des jeux vendus à petit prix, certes, mais qui n'apportaient pas non plus grand-chose, hein, soyons très clairs, et surtout qui n'apportaient aucune amélioration technique, donc les errements, les errances, les choses qui commençaient à faire un peu critique se retrouvaient, pas de déformation, toujours. Pas de mode online, encore moins. Intelligence artificielle toujours aussi robotisée. Ça, c'était un petit peu dommage. En revanche, pour le garage réel, cette fois-ci, de Kazunori, ça faisait plaisir.
Ah oui.
Puisque lors de ces démo disques, les constructeurs très heureux de voir leur voiture mise en avant, parce que mine de rien, c'était présenté comme ça à des grands salons automobiles, le salon de Genève par exemple.
Ça faisait de la pub. Quoi.
Ça leur faisait une belle pub quand même d'avoir son jeu. Et surtout, en plus, c'était toujours fait en suivant bien, comment la voiture se comportait, etc. Je cite par exemple, Volkswagen a offert une Golf R32 à Kazunori pour le remercier. Un petit peu mieux, Nissan a offert une Nissan GT-R,
alors
un genre de voiture qui coûte le bonbon.
Sur la Nissan GT-R, apparemment, Yamauchi, il a carrément participé à l'élaboration de la bagnole. Alors à son niveau, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais voilà. Donc le cadeau de remerciement, c'est aussi parce qu'il avait participé.
Il a choisi la couleur de la boîte à gants.
Ouais. Ça, peut-être. Justement, ça vous dirait, petit aparté, de connaître un petit peu le garage de cet homme, Kazunori, de véhicules.
Fais-nous rêver.
Parce que... On parle comme ça des développeurs de jeux. Ils nous font rêver. On achète leurs jeux 40, 50, 60 euros parfois. On se dit, mais est-ce que c'est des superstars ou pas? On n'entend pas parler tous les jours. C'est quand même quelqu'un qui peut s'acheter deux Ford GT. Je ne vous dis pas le prix à l'unité, vous irez voir. Vous irez voir la gueule
Ford
de la bagnole.
GT, c'est...
Ça fait plaisir aussi. Ouais. Il a une Porsche GT3. Hein, généralement, c'est 350 000 euros minimum. Une Nissan 350Z Nismo, donc édition limitée. Il a une Honda S2000. Il y a une Mercedes SL55. Et là, franchement, allez juste la mater. Vous allez juste rêver. Hein, c'est la bagnole au million, quoi. Donc, il se fait plaisir. Hein. Ça, c'est juste les voitures. À sa décharge, ce monsieur bosse beaucoup. Puisque d'après une...
D'ailleurs, il dort dans ses voitures, il n'a pas d'appartement.
Tu sais quoi?
Lui, il a un parking.
Il devrait ne pas avoir d'appartement, en tout cas, puisqu'apparemment, il passe à peu près toute sa vie chez Polyphony Digital, parce que lors d'une interview, il a quand même déclaré que depuis la création de lancement de la série Gran Turismo, donc en 97, donc depuis 11 ans, il n'est resté chez lui que 4 jours.
Ouais, pipe.
Alors là, je ne sais pas, être autant dédié à sa tâche, ma foi.
Non, mais c'est surtout, faut pas oublier un truc, c'est que des fois,
il est marié.
Il va sur.
je ne sais pas.
Il va aussi à l'étranger pour aller faire les repérages sur les circuits, machin.
Bien sûr,
tout,
enregistrer les bruits des moteurs.
Ouais, non, mais il en profite aussi, quoi. Faut pas les connaître.
Ah oui, non, mais on n'est pas en train de dire que sa vie est minable.
Tu l'as dit, tu savais que sa cave à vin était chez Polyphony aussi.
Ah
mais je pense qu'il a tout. Il a peut-être fait aussi venir sa femme et ses enfants chez Polyphony.
Non,
je sais
mais
pas comment il se démerde.
Mais... La cave à vin dans les salles des serveurs climatisées avec une cave à vin climatisée dans la salle où il fait frais, quoi. C'est la classe.
Au beau milieu
il peut picoler direct au boulot, quoi. C'est bien.
C'est plutôt bien vu. On enchaîne son Gran Turismo 4 après cette petite aparté people de la vie.
Alors
de
avant Gran Turismo 4, il y a eu. Et ça va vous dire quelque chose, un Gran Turismo 4.
Pardon, Turismo.
Un Gran Turismo 4 prologue.
Prologue, bien évidemment.
C'est marrant, ça, c'est un truc, c'est un concept qu'il aime bien.
Et puis, il aurait raison. Il a raison de bien aimer, et en tout cas, il aurait raison de ne pas s'en priver, puisque Gran Turismo 4 Prologue, donc effectivement, sorte d'antichambre du Gran Turismo 4 qu'on a connu en fin de vie de la PS2, c'est vendu quand même tout bonnement à 1 400 000 exemplaires.
Cling, cling.
Voilà, donc les caisses, hop, on se les renfloue directement avec ce qu'on pourrait appeler à l'époque, hein, très clairement, comme une démo.
Oui, c'était une démo.
Voilà, ça apportait quoi?
Bah, ça a apporté une petite sélection de voitures et puis le jeu amputé de tout ce qui fait que c'est Gran Turismo, c'est-à-dire les permis, les machins, etc. Enfin, c'était.
C'était pour allécher vraiment
un truc
les fanatiques.
Super light, ouais, alors qu'on appelle ça une démo ou autrement. Voilà, c'était. Et puis surtout, au final, quand on a vu Gran Turismo 4, finalement, Gran Turismo 4 Prologue était vachement plus proche de GT3
oui, c'est ça.
Que GT4. C'est-à-dire que bah, c'est très bien. Hein. J'espère que GT5 sera encore mieux que GT5 Prologue.
Oui, parce qu'attention, restez avec nous. Hein, on aura les quoi. Dans 5 minutes maintenant, on vous fait une bonne petite preview de ce qu'on pense de Gran Turismo 5 Prologue qui sort voilà, là aujourd'hui, hein, disponible à la fois en boutique hein, alors, mais aussi sur le PSN.
Avec notre version test, tout Network. Ce qui est online est bloqué, donc le test arrivera un peu plus tard.
On en parlera dans quelques instants. Alors Gran Turismo 4 arrive néanmoins après, et là quand même on sent qu'ils ont quand même bossé dessus. Hein. S'il n'y a pas de révolution graphique par rapport à ce qu'avait apporté Gran Turismo 3 Aspect à son époque sur PS2,
quand même, il est plus joli.
Il est plus joli, ah, certes, mais c'est surtout en termes de contenu que là il met tout le monde d'accord. Ouais. Là, c'est vraiment pour les fans de voitures. Hein. C'est plus de 50 circuits, c'est plus de 728 véhicules. Ça place la barre quand même sacrément haut. Hein.
Oui, mais alors, pas seulement ça, mais les sensations de pilotage dans GT4 ouais. ont été vraiment améliorées par rapport à GT3. C'était juste un bonheur intégral. Quoi. Mmh. Et, je me rappelle qu'en quasiment en même temps, il y a Forza qui est sorti, qui était vraiment sérieux, un super jeu. Mais quand tu prenais l'un et l'autre en main, il n'y avait pas photo. Quoi. C'est-à-dire que Gran Turismo, c'est un peu comme PES. Si on disait que les équipes de KCET avaient en fait, pris une telle avance et qu'ils optimisaient à chaque fois finalement, le même moteur, qu'ils étaient arrivés à un niveau que FIFA ne pourrait jamais rattraper, etc. Gran Turismo, c'était un peu pareil. C'est-à-dire partie de tout ce qu'ils ont développé sur la physique dès le premier épisode, ils ont à chaque fois amélioré. Et dans GT4, on atteint des sommets dans la conduite.
Il y avait un vrai fossé par rapport à GT3 Ça se sentait comment ?
Bah, ça se sentait dans des tas de trucs, dans des tas de petits détails. Encore une fois, c'est souvent une histoire de détails, mais enfin, il y a le moteur qui était vraiment le moteur physique qui était vraiment performant. Et puis voilà quoi, quand t'allais à fond avec une super caisse sur le circuit du Nürburgring, vous voyez ce que c'est ?
Ouais.
En Allemagne.
Voilà, avec une piste vachement cabossée, etc. Et que t'entends à partir d'une certaine vitesse le vent qui tu sens la voiture parce que tu sentais bien que les vibrations et tout ça qui commence un peu à tu vois t'as peur de perdre le contrôle etc. Enfin c'est des sensations de Gran Turismo que tu retrouves pas ailleurs quoi. Et dans GT4 enfin moi il m'avait bluffé GT4.
Alors aussi c'est la prise en compte de certaines critiques hein, dont on parlait jusqu'à présent. Alors même s'il y a pas même s'il y a pas de changement phénoménal, ça veut dire toujours pas de déformation malheureusement, et là ça commençait à faire un petit peu beaucoup, même si l'intelligence artificielle n'avait pas été améliorée de manière
aussi peu,
hallucinante
aussi peu.
Ouais. En revanche c'est l'apparition
des pénalités
voilà. Alors est-ce que ça a apporté quelque chose finalement, tu peux nous resituer un petit peu, Julo?
Bah en gros ouais c'est ça. Bah d'ailleurs quand on avait été à l'E3, donc je sais plus quelle année c'était, quand on était tous ensemble,
a priori
on avait
c'est interviewé 2003, Yamauchi, 2004.
Il avait sa réponse toute faite parce qu'évidemment tout le monde lui posait la question. Alors dans GT4 est-ce qu'il va y avoir des déformations? Alors il disait non mais je suis en train de penser à un système, etc. Donc ce système c'était ça, en gros tu rentres à donf dans une caisse. T'as une pénalité de vitesse,
de temps
quand tu coupes la piste, etc. Enfin bref, on te pénalise.
Des malus, quoi.
On te pénalise de ne pas avoir une conduite sérieuse, quoi, entre guillemets.
Civilisée.
Civilisée, enfin voilà, dans les règles de l'art.
Mais est-ce que c'est pas quand même un petit peu un nuage de fumée, cette histoire
Bah, c'est surtout une manière de masquer un défaut réel, quoi, comme il peut, quoi. Enfin voilà, bon, on peut pas déformer les voitures, on peut pas vous la mettre KO voilà, vous aurez des pénalités, quoi.
Alors, bien évidemment, si on aura toujours. On n'a jamais eu d'explication officielle, hein, puisque à part le sacro-saint, les constructeurs ne veulent pas donner une mauvaise image de leur voiture. Bon, alors que tous les Forza, les MSR, ce genre de jeux déformaient allègrement, je ne parle même pas des Need for Speed, encore moins. Bon,
et c'est l'introduction des Ferrari, qui a toujours été réclamée. Alors je ne sais plus ce qui sortait, que non, Ferrari n'était pas d'accord. Ou je sais, c'était un truc à la con, pareil. Dans tous les autres jeux de caisse, t'avais des Ferrari.
Est-ce que c'est pas aussi parce que, mine de rien, Gran Turismo était l'un des jeux qui concentrait le plus de l'essentiel de ces polygones sur les voitures, et que peut-être que bah, une déformation égale aussi d'autres polygones, un autre mapping de la voiture.
Il y a certainement des grosses contraintes techniques.
Plus l'intelligence artificielle faisait que bah, si on voulait des déformations, il aurait fallu aussi que les voitures soient bien modélisées.
Mais oui, c'est surtout une question de temps. Ça demandait énormément de temps de construire des systèmes pour faire ça.
Il l'avait expliqué plus ou moins Yamauchi, c'est-à-dire que quand tu décides d'intégrer des déformations de la carrosserie,
il faut quasiment faire deux voitures.
Il faut quasiment faire deux voitures, c'est-à-dire pour chaque partie de voiture. tu traites.
Enfin, si tu veux le faire à la Yamoshi style, ça veut dire parfaitement.
Non, non, tu vois PGR. Ouais. PGR, moi j'avais fait un reportage chez eux, ils nous avaient expliqué comment ça fonctionnait. C'était ça, quoi.
Enfin, c'était leur système, mais il y a plusieurs systèmes. Tu peux aussi le faire de manière procédurale, etc.
Maintenant, on peut le faire.
En tout cas, la manière simple.
À mon avis, c'est surtout une question de choix. Il a choisi de consacrer le maximum de son temps à avoir la meilleure physique possible dans son modèle Gran Turismo et pas à faire des déformations.
Oui, puis surtout, il perd un temps mais tellement monumental à modéliser chaque caisse. Parce que, c'est pas les mêmes caisses que dans l'épisode d'avant. Ils les refont, machin, etc. Ils les améliorent. Enfin, chaque bagnole, c'est des semaines et des semaines de modélisation, quoi. Mmh.
Alors, quoi qu'il en soit, GT Gran Turismo 4 remporte un succès, un très beau succès, hein, même si bien inférieur à tous les précédents épisodes. Il se vend à aller un petit peu moins de 9 millions d'exemplaires, le pauvre, j'ai envie de dire. Ça reste gigantesque, mais c'est quand même la première fois où la série marque un vrai temps d'arrêt, se vend moins que d'habitude, peut-être a fait le plein des personnes qui aimaient la série et qui avaient envie peut-être d'attendre un peu jusqu'à ce qu'il y ait une véritable évolution. Alors, est-ce que la véritable évolution va arriver aujourd'hui sur PlayStation 3 avec le fameux Gran Turismo 5 qui arrive normalement en fin d'année, début d'année prochaine?
Gran Turismo 5, alors je crois qu'on a parlé de printemps 2009.
Printemps 2009. Ah oui, le vrai Gran Turismo 5.
Je crois que la déclaration officielle, c'est pas avant début 2009, un truc comme ça.
Oui, bah, ça c'est sûr, le temps de bien vendre le prologue.
En plus, y a des rumeurs qui courent sur la forme qui va revêtir... qui sont pas forcément très rassurantes, quoi. Mmh. On parle beaucoup de cœur de jeu et puis de download pour tout le reste du contenu,
des downloads payantes, bien entendu.
Voilà, ce qui fait que si tu veux vraiment avoir les 700 caisses que tu pouvais avoir dans un autre, tu vas claquer.
Ça va déjà être mis en place avec le prologue, hein, d'ailleurs, a priori.
Ouais. Souvent qu'il y a surtout la plus grosse nouveauté de toute l'histoire de Gran Turismo avec la modélisation de l'intérieur des voitures, et rien que ça doit doubler le temps de travail vu que tous les cockpits sont
Justement. Tout à fait, on parlait il y a un instant du temps pris pour atteindre ce degré de perfection, parce que mine de rien, c'est ça aussi la marque des Gran Turismo, c'est visuellement, c'est je crois encore aujourd'hui, à chaque fois, à chaque génération de machines, les plus beaux jeux de voitures jamais vus. Hein, c'est-à-dire que là même, rien qu'avec le prologue, aujourd'hui, ça reste quand même ce qui se fait de mieux. Alors, d'après Kazunori Yamoshi, il faudrait à une personne 6 mois aujourd'hui pour modéliser l'intégralité d'une voiture de Gran Turismo 5. Je sais pas si vous vous rendez compte le temps qu'il faut. Alors, bien évidemment,
il y avait une personne en tête, là, c'était toi. Effectivement, il te faudrait 6 mois.
Voilà, si j'étais tout seul.
Alors, un mec qui n'y connaît absolument rien, qui n'a jamais touché un ordinateur.
Il faut 20 ans.
Il faut 20 ans. Alors, je ne sais pas si vous imaginez 20 ans.
Alors, juste pour vous donner justement un petit ordre d'idée, hein, lors du lancement de Gran Turismo en 97, il y avait 15 personnes qui travaillaient pour Gran Turismo. Aujourd'hui, sur GT5, ils sont plus de 120. Donc, bien évidemment, ça met moins que 6 mois à modéliser. Mais enfin, c'est vous dire un petit peu le travail. Pareil, dans le même ordre d'idée, pour modéliser un circuit intégralement, il faudrait un an à une personne seule pour modéliser tous les aspects, etc. Puisque aujourd'hui, franchement, on peut parler quasiment de photoréalisme.
Oui, quand même, complètement. Ouais.
Certains circuits sont des circuits réels et effectivement, pour les vrais fanatiques, Manicourt, etc., on a l'impression d'y être. Hein, on les reconnaît. Il y a les mêmes marquages au sol, les mêmes sorties, les mêmes vibreurs. Tout est
identique. Même tâches de sang.
Je ne sais pas. Mais bon, Gran Turismo 5 Prologue débarque aujourd'hui et Julo a eu vraiment l'occasion de s'y essayer. On rappelle rapidement, hein, après l'apparition sur le PlayStation Network de Gran Turismo HD, qui était finalement une sorte d'avant-goût, l'avant-goût qu'est le Prologue.
Ouais, non, c'est bien ridicule, son mec.
C'était pas ça du tout. Le GT HD, c'était en fait Gran Turismo 4 en haute définition.
En haute définition.
Voilà,
d'accord. Rien de plus.
Enfin, c'était une démo de Gran Turismo 4 en haute définition.
Oui, il n'y a que dalle, mais c'était gratuit.
C'était gratuit. Certes. Alors,
téléchargé, évidemment. Contrairement à Gran Turismo 5 Pro, là,
que vous pouvez d'ailleurs toujours télécharger.
Combien déjà? Parlons de thunes.
Alors, Gran Turismo 5 Prologue coûte 40 euros.
Et donc maintenant, j'ai vraiment envie, il y a énormément de personnes qui se posent la question, à savoir, est-ce que c'est une simple démo ou est-ce que ça n'est pas le cas? On le sait tous, hein, Sony martèle que ce n'est plus qu'une démo, il n'y a plus de 70 véhicules, il n'y a plus de 6 courses. La version européenne d'ailleurs a été bien améliorée par rapport à la version japonaise.
Alors,
mais est-ce que ça en suffit à en faire plus qu'une démo?
Alors, non. Non, c'est
merci,
clairement...
au revoir.
Non, mais c'est... Après, je sais pas, ça va être plus ou moins péjoratif dans la bouche de quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Voilà. C'est une démo dans le sens où voilà, on sait très bien qu'il n'y a pas dedans ce qui fait Gran Turismo d'habitude, c'est-à-dire les permis, une progression sur la longueur, machin, etc. Là, c'est 6 courses, quelques événements classés en différentes catégories, C, B, A, etc. Des événements constructeurs, une sélection de véhicules qui est super correct, voilà, pour un jeu à 40 euros, t'as 70 bagnoles.
Il y a beaucoup de jeux aujourd'hui qui ont moins de, qui proposent moins de véhicules.
Hein. Ouais, mais moins de challenge aussi. Du coup, il y a pas vraiment un challenge. Il faut quand même, je sais pas, 10-15 heures à mon avis.
Oui, voilà, c'est la question que j'avais posée. Sony parle de 17 heures pour voir l'intégralité de ce jeu, de ce prologue.
Pour certaines, je sais.
Mais alors,
est-ce que
voir l'intégralité, c'est arriver jusqu'à la fameuse F1 Ferrari qu'on a tous vu. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégralité du jeu, on l'a retourné en 8 heures et qu'après il faut cravacher pour avoir les 200 millions de points.
Ouais, non, mais voilà, après, si tu veux te payer toutes les caisses, elle coûte je sais plus combien, 2 millions de crédits, je crois, la Ferrari F1. Mm-hmm. Donc voilà, il faut.
Donc il y a des Ferrari au moins.
Oui, il y a des Ferrari. C'est la nouveauté de Gran Turismo 5 et donc de Gran Turismo 5 Prologue. Voilà. Et d'ailleurs, on en a plus des Ferrari dans notre version européenne. On a la F40 notamment.
Cool.
Bref, tu vas en faire le tour assez rapidement. Mais à côté de ça, tu as aussi un mode multi. Jouable à 16, c'est la première fois. Enfin, il y avait eu un
Donc du online, enfin.
Il y a quelques années voilà, au Japon qu'ils avaient fait sur inscription, je ne sais plus quoi. Mm-hmm. Bref, là, c'est la première fois que tu as un mode online. Jouable à 16 en plus. Il y a une bonne sélection de caisses. Il y a
un mode aussi multijoueur en écran splitté.
Voilà, ça c'est une nouveauté de la version européenne. Donc t'as un mode à deux joueurs en écran splitté qu'ont pas les Japonais. T'as aussi un mode drift, donc de dérapage. Mm-hmm. Et puis voilà, en gros. Quoi,
moi, ce que j'ai vraiment envie de savoir, voilà, c'est ton impression en tant que joueur. Alors, qu'est-ce que apportent les principales nouveautés aussi de cette version? Il y a la vue cockpit.
Alors voilà.
Qu'est-ce que ça vaut?
Alors, c'est génial.
Ouais.
Allez, moi je suis un fanat des vues cockpit. Je sais pas si tout le monde l'a bien compris. Voilà, je sais pas, ça me fait triper. Et
conducteur de bus, le retour.
C'est ça. Voilà. C'est ce que j'allais dire.
Pour ceux qui se rappellent pas, va falloir télécharger quelques anciens podcasts.
Non, c'est-à-dire, t'as toujours cette vue sans rien là qui est génialissime parce que c'est l'immersion par la vitesse, près du sol, etc. Mmh. Mais là, c'est l'immersion par le cockpit, quoi.
Qui est magnifiquement modélisé en plus, hein.
Qui est super bien fait.
Et qui est juste ultra bien fait, différent pour toutes les caisses. Donc c'est vraiment l'intérieur des caisses avec
bronze
les
de noyer. Cuir véritable, coups humains,
voilà, le logo sur le volant, tout.
Si t'as une Nissan Micra, c'est du plastoc. Hein.
Elle est parfaitement bien calée. Ouais. C'est-à-dire, c'est important parce qu'une vue cockpit peut être complètement foirée.
C'est pas légèrement décentré?
Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc c'est bien du côté du volant. T'as une vue sur le rétro de droite quand t'as le volant à droite.
C'est vraiment jouable ou pas?
Oui, c'est super jouable. Et surtout, les mains se comportent super bien. Avant le changement de vitesse, quand tu joues en automatique, il déplace sa main avant de la changer. Machin, ça se fait naturellement. Bon, l'angle de braquage, il tourne vraiment pas beaucoup, mais bon, c'est un détail à la con. Cette vue est vraiment tripante. Mais à côté de ça, surtout, la première impression, c'est une impression de photoréalisme. Parce qu'il faut le dire, ce jeu est magnifique, quoi. Il est juste magnifique. Donc effectivement, tu as des circuits. Alors les circuits officiels, on va dire Suzuka, etc., où il n'y a pas grand-chose alentour, ça fait un peu vide et tout. Mais tu as un circuit à Londres, dans GT5 Prologue, qui est très joli.
Alors justement, moi, c'est un peu la question. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'y jouer encore à cette version. J'ai vu néanmoins les vidéos. J'avais l'impression que ça faisait un petit peu plaquage.
Oui, alors notamment, tu penses au circuit dans la montagne, non? C'est pas ça?
Non, Londres, ouais.
Non, Londres, franchement,
super. Parce que par exemple, on sait qu'il y a d'autres jeux, je pense à PGR, je crois, qui ont des circuits un peu équivalents, urbains. Est-ce qu'il y a un vrai fossé avec ces jeux-là sur Xbox 360?
Ouais, moi je trouve qu'il y a il y a vraiment une touche photoréaliste en plus, quoi. C'est-à-dire que il y a peut-être un aspect plus lissé, plus simple sur certains aspects, mais globalement c'est vraiment photoréaliste, quoi. C'est super beau, le bitume, les reflets du soleil sur le bitume sont magnifiques, les détails sur le bitume quand tu roules doucement ou quand tu prends un virage et que tu vois bien les ralentisseurs sont super bien faits sur le côté. Il y a la végétation qui va bouger un petit peu autour du circuit selon le vent.
Moi, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Gran Turismo, je suis franchement, très honnêtement, pas fanatique des jeux de voitures, des simulations automobiles. Et pourtant, Gran Turismo, c'est vrai que c'est un jeu que j'ai généralement bien apprécié. Mais il y a des choses qui m'emmerdent un peu. C'est à chaque fois entendre dire qu'ils ont modélisé à perfection les voitures, que les sons ont été pris. Et pourtant, j'ai l'impression toujours d'entendre à peu près toujours, version après version, les mêmes sons, les mêmes bruits quand je dérape.
Comme ils l'ont fait parfaitement dès le premier.
Est-ce que c'est toujours pareil ou
Oui,
est-ce que,
le
enfin,
bruit des dérapages. Non, le bruit des dérapages, il est toujours.
Qui est toujours différent des trailers qu'on entend où c'est les vrais sons bien rauques, bruit qu'on entend réel. Et puis dans le jeu, ça fait toujours. Enfin, c'est pas terrible.
Ça fait partie des petits détails.
Mais qui font quand même l'immersion.
Oui, bien sûr.
Donc ça n'a pas évolué.
Franchement, les dérapages, j'ai pas l'impression.
Les chocs contre les côtés où ça fait pang, une espèce de vieux bruit de tôle.
C'est un peu mieux à ce niveau-là, ça m'a pas choqué en tout cas. Alors,
et est-ce que justement il y a un petit peu de débord sur les côtés ou c'est toujours pareil quand il y a un fil, par exemple, je pense au circuit dans la montagne ou quoi que ce soit avec le public qui fait.
Non, tu peux pas écraser les gens non, mais sans, et tomber
sans
dans le canyon.
Sans parler de les écraser, mais voilà, on peut pas sortir. Ça veut dire que juste un fil
ouais.
en papier
ouais,
te bloque comme un mur.
Parce que n'importe quel jeu de caisse, maintenant tu sors.
Bah, tu sors.
Ouais, ouais, comme dans
Colin McRae. C'est dommage quoi.
Oui, ça fait partie des
ce genre de choses, ça n'a pas évolué.
Et c'est comme, oui, alors l'IA est meilleure.
Ouais. Les chocs, les déformations.
N'y sont pas.
N'y sont pas, d'accord.
Voilà. Non, non, mais l'IA est un peu meilleure parce que les mecs vont freiner.
Scandale.
Et encore pas tout le temps, hein, mais ils vont freiner pour éviter de te rentrer dedans à certains moments, etc. Mais bon, globalement, l'IA, elle est toujours en deçà de ce qui peut exister à droite à gauche.
Moi, ce que j'ai envie de te demander, Julo.
Mais c'est surtout. Ouais, pardon, je voudrais juste. Parce
ouais,
que
ouais, vas-y, vas-y.
Je te laisse finir. Je te laisse finir. Oui. L'autre chose la plus importante dans Gran Turismo, le pilotage, la conduite, l'immersion, donc par le réalisme du modèle physique. Bah là, encore une fois, c'est super bien. Quoi. C'est vraiment. T'as les déplacements de masse qui sont extra.
Mais est-ce qu'ils sont plus qu'extra? Ça veut dire mieux que ce qu'on a connu jusqu'à présent?
C'est toujours un peu mieux, ouais. Ouais, ouais.
Mais c'est toujours un peu mieux. Là, il y a encore un vrai gap qui a été franchi.
Il y a un fanatique, quoi, c'est
un
ça.
Un déplacement de masse, un déplacement de masse. En même temps, si tu veux.
Je t'en fous du déplacement de masse, moi, tu vas voir.
S'il était
ma main est une masse, regarde, bim.
La façon dont ta caisse. Alors, t'as plusieurs niveaux. Hein. Tu peux te mettre en standard ou en professionnel pour la conduite. Donc, ça, c'est le réalisme. Tu peux activer ou désactiver différentes aides. Il y en a trois, je crois.
Si tu désactives.
Ils ont rajouté un détail que moi, je trouvais génial. C'est une invention de Forza.
Ouais.
C'est la ligne de trajectoire.
Ouais.
Tu sais, dans Forza, tu as une ligne donc de
avec
la trajectoire parfaite.
Avec les points de freinage, etc.
Voilà, avec, qui est verte tant que tu peux accélérer, qui devient rouge quand tu dois freiner, etc. Ils l'ont intégré dans Gran Turismo. Mmh. Ça, je trouve, c'est,
bon, les lignes de trajectoire, tu les as sur PC depuis moult années.
Ah bon ?
Oui.
D'accord.
Moi je pense à un jeu, tu vois. On parle de simulateur automobile parfait, représentation, simulation parfaite, etc.
En tout cas, il n'y a pas mieux.
Moi je pense à un jeu qui était sur Dreamcast, c'est Ferrari 355 Challenge, qui était ultra pointu, parfois même limite trop. Mais est-ce que finalement, si j'enlève toutes les assistances à la conduite, si je me mets en professionnel sur Gran Turismo, est-ce que je m'en rapproche un petit peu ou est-ce que ça reste toujours trouvé que c'était un peu arcade en fait, Gran Turismo.
Oui, il y a
beaucoup moins qu'un Ridge Racer, bien sûr. Mais
je pense qu'il y a un juste équilibre en fait.
Moi je crois que c'est sa force surtout, c'est qu'il a réussi à trouver le compromis parfait entre simulation et arcade.
Ouais.
C'est comme ça que je le vois, mais je suis pas non plus un spécialiste des jeux de caisse. Et
de toute façon, si tu prends une vraie simulation, t'en vends pas 10 millions, faut être clair.
Ah non, c'est sûr.
Il y a eu GTR sur PC.
Bah, si tu prends les jeux de Gramont, enfin tous les jeux qui sont ultra hardcore dans le genre.
Ne serait-ce que le premier virage est une galère sans nom.
Tu peux pas, t'es obligé. Les gens jouent avec toutes les aides. Alors là, par contre, nous, c'est pas les GTR, les compagnies, t'as 10 assistances séparées. Si tu vires tout pour être en mode genre OK pro, mais déjà tu démarres pas, tu pètes ton moteur au démarrage.
Mais j'ai pas envie de parler d'arcade pour autant dans Gran Turismo.
Non, mais de
parler de compromis, même de compromis, etc. C'est-à-dire que c'est une vraie simu. Quand tu te retrouves dans l'herbe, tes roues patinent, tu t'en sors super difficilement, tu perds un temps fou. T'as pas vraiment le droit à l'erreur, etc. En ce sens, c'est assez hardcore. Après, effectivement, ça va être plus jouable qu'un GTR parce que. Ou qu'un Ferrari, donc
F355 voilà, Challenge.
Qui sont des jeux moches en plus sur PC d'habitude, tu vois.
Qui étaient très lents et puis qui étaient vraiment, mais vraiment.
Très pointu.
Voilà, c'est-à-dire que le problème de Ferrari à F355, c'est que, à la limite, tu pilotes toi-même une Ferrari dans la vie, t'as pas autant de difficultés que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que.
Julo, conducteur de Ferrari au quotidien.
Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'était exagéré par rapport à la réalité. Tu vois.
C'est au taquet, quoi.
Mais
c'est surtout que t'as pas toutes les informations que t'as quand t'es dans une vraie caisse, quoi. Ouais, tu ressens pas le truc de la même façon quand même.
C'était n'importe quoi, Ferrari. C'est-à-dire que tu mordais un petit peu, d'un seul coup, ta voiture faisait. Elle partait dans tous les sens et tout. Enfin, tu vois, c'était. Bon. T'avais pas d'impression de vitesse, etc. Enfin bon,
ça peut gênant pour un jeu de course quand même.
Alors là,
mais cela dit, c'était un jeu génialissime.
C'était une expérience, c'était un jeu
voilà,
trip.
C'était
quoi.
Un jeu trip.
Carrément. Bon, alors là, maintenant, je vais poser vraiment la question naïve, mais que certains aussi attendent.
J'achète ou j'achète pas ?
Bah, j'achète ou j'achète pas, bien évidemment. Et puis, est-ce que aussi, vraiment, c'est la claque absolue, ça enterre visuellement tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, 360 compris, sur tous les derniers gros jeux automobiles, est-ce que la PS3 a vraiment montré aujourd'hui qu'elle en a grave dans le ventre et elle met vraiment un fossé avec le reste ?
Comme la PS2 à l'époque.
Exactement.
Oui,
est-ce que ce gap est là ?
Oui, technologiquement, oui.
Ouais. C'est marrant, moi je l'ai pas ressenti comme ça.
C'est vrai, mais
visuellement.
Tu restes peut-être sur l'impression que tu avais avec GTA HD. Je sais pas si tu l'as vu le prologue.
Non, oui, bien sûr.
Donc oui.
Est-ce que par exemple la vue arrière que j'ai toujours trouvé absolument horrible dans tous les Gran Turismo, c'est-à-dire que je jouais toujours vue intérieure, bas de pièce, etc. Voilà. Mais dès que je me mets pour voir la voiture de dos, j'ai toujours trouvé ça assez moche. Est-ce que là, pour une fois, c'est
Non,
je suis pas d'accord.
Et dans GT4, je reviens sur GT4 vite fait, mais ils avaient déjà des tricks. À l'époque, on ne savait pas faire les réflexions en temps réel, etc. Mm. Ils mappaient des fausses textures. Tu passais dans des routes et il y avait la forêt avec la lumière qui passait à travers des arbres, etc. Ils avaient fait des textures qui passaient sur la bagnole pour faire croire que tu avais les rayons de lumière qui passaient sur
la bagnole. Mais je m'en fous, GT5 prologue.
Cela dit, je déteste cette vue, donc je l'ai à peine utilisée. Ouais, moi, j'étais un soir en vue près du sol, subjectif.
J'étais un soir en vue près du sol et puis j'ai vu un truc de fou. Est-ce que vous savez que les extraterrestres existent? Bon, alors en gros, j'achète pas. Non, mais parce que excellent documentaire sur Canal Plus.
Oui, tout à fait. Je l'ai vu.
Ça va.
Voilà. I believe.
Non, mais moi, j'y believe grave. Ils sont là, c'est obligé. Bon, enfin, bon.
D'ailleurs, je pense que Yamauchi est un extraterrestre. Et parce qu'on ne peut pas travailler autant, c'est pas possible. C'est
clair. D'ailleurs, on finira le podcast avec une petite anecdote sur Yamauchi.
Donc, GT5 Prologue.
J'achète pas.
Bah écoute, sachant qu'il faut attendre encore un an avant de jouer à GT5 le vrai, que le jeu est à 40 euros. Qu'il est quand même
au lieu de 70 habituellement,
au lieu de 60 pour les jeux first party, et qu'il est assez chargé en caisse, en voilà, pas trop en challenge effectivement, mais il y a quand même ce putain de mode online quoi. Donc on vous en dira plus lors du test, parce que là on peut pas le tester, il est verrouillé sur la version européenne. On pourrait l'essayer sur la version japonaise, mais ça serait sur des serveurs japonais, il y aurait du lag, etc. Donc voilà, en attendant de voir ce que ça vaut réellement, mais à mon avis ce sera pas catastrophique. Je vois mal une catastrophe comme ça arriver, mais voilà,
Donc toi
voilà,
t'achètes quoi?
Moi j'achète, moi j'adore Gran Turismo, j'adore les jeux de caisse.
Moi j'achète pas parce que je m'en fous.
Et toi tu l'achètes pas parce que tu t'en fous, voilà.
D'accord. Donc en tout cas.
Donc c'est une démo, oui, on peut appeler ça une démo, une démo bien garnie quand même. Et
une belle démo.
Belle démo.
Bonne démo.
Belle grosse démo.
Un morceau de jeu, voilà, qui pourra faire patienter en attendant le vrai, quoi.
Enfin, je suis pas inquiet, il y a suffisamment de fans de caisses et de jeux de bagnole, etc. Et je pense que ça va faire du bien.
Oui, puis Gran Turismo.
Sur PS3, t'as quoi d'autre?
Non, mais c'est ça.
Mais tu sais que voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit sur le début de podcast.
Là, en tout cas,
c'est une killer app, c'est ça qui est hallucinant finalement, c'est que ça soit une killer app.
Le prologue est donc.
C'est une killer app aux yeux de Sony pour le marché européen en tout cas, quoi. C'est évident, quoi. Parce que d'ailleurs, ils font un bundle. Il faut savoir que le jeu va être vendu aussi en bundle. Si vous comptez acheter une PS3 pour Gran Turismo, il va être en bundle à 399 €. Donc, c'est donné, quoi.
Alors, attention, n'oublions pas que si vous comptez acheter une PS3 cette année, il y aura des bundles peut-être plus intéressants qui vont arriver dans quelques temps. Parce que là, le bundle qui est fourni n'est pas fourni avec le DualShock 3.
Tout à fait.
Pas de plus.
Ah oui, d'ailleurs, j'ai mis les vibrations. Parce que, comme un con, tu sais, des fois, j'ai des absences. Donc, il y a un mode vibration dans le jeu. Donc, je l'ai mis.
J'adore ce que je vais entendre.
Ouais, je l'ai mis et j'ai dit putain, mais pourquoi ça vibre jamais? Et là, j'ai regardé ma manette et j'ai fait ah oui, merde. C'est
rappelle-toi. Rappelle-toi.
Voilà, ça c'est fait. Les vibrations, va falloir quand même encore attendre. Hein,
mais
ça,
cela
c'est...
dit, voilà, on peut acheter un DualShock américain. Il est sorti aux États-Unis, je suis plus japonais.
Bah, il va sortir là pour le.
Voilà, donc ça vaut le coup.
Parce
que les vibrations, ça ajoute. À
bah, bien sûr.
Mais t'as surtout le super volant Logitech qui va sortir là. T'as Logitech qui
sort. Du retour de force.
Oui, alors voilà, en plus, il est compatible avec tous les volants.
Ah ouais.
Ah mais genre tous les volants de GT Force machin qui sont sortis depuis le premier, je crois qu'il y en a eu 4 en tout avec celui qui va sortir. Il va donc sortir après le jeu, attention.
Il y a le
nouveau
super
volant Gran Turismo va sortir après le jeu, donc vaut mieux l'attendre si on en a pas encore.
En cuir véritable ou pas?
Oh, écoute, non, je crois
tu
pas.
Tu sais, en cuir super caoutchouc vachement synthétique.
Non, mais il y a un petit truc sur le volant qui permet de changer en fait les assistances en direct live, c'est une espèce de petite roulette rouge sur le volant directement.
D'accord.
Et puis évidemment, il est amélioré le pédalier aussi et tout.
C'est un super levier.
Très bien.
Donc, c'est important,
donc,
les pédales.
Vous l'avez compris en tout cas, ce Gran Turismo 5 Prologue certes est une démo, mais enfin plutôt une bonne pioche pour les fanatiques en tout cas de la série, je serais content de passer à côté hein, effectivement Gran Turismo 5 véritable version n'étant pas attendu avant plusieurs longs mois. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur la série, la saga Gran Turismo. On rappelle, hein, 47 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est juste quand même hallucinant. Hein. Ça s'installe parmi peut-être les 5 jeux consoles, les 5 séries les plus vendues de tous les temps. Donc c'est vraiment un monument. On espère à chaque fois de belles nouveautés et espérons que Gran Turismo 5 se fasse pas trop attendre.
The real one.
Avec vraiment plein plein de choses et qu'on soit tous bluffés. Ça cas, ferait du bien à la fois aux joueurs, à la fois à la PS3 et joueurs comme console en ont bien besoin. Voilà, on se donne rendez-vous nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Vous allez voir, la semaine prochaine, un podcast un petit peu particulier puisque
pas particulier,
un hein. petit peu particulier puisqu'on va lancer une nouveauté, une petite nouveauté sur les ouais. podcasts de Gameblog.fr. Vous l'avez vu déjà depuis quelques semaines, tous les samedis, le week-end, vous avez un nouveau rendez-vous. Ça s'appelle Best of. Ça permet de voir un petit peu les actus principales qui ont fait les événements de la semaine. Et bien là, on va faire chaque premier mercredi du mois un retour sur l'actualité bouillante du mois précédent, vraiment pour revenir un petit peu plus en profondeur, pas juste se contenter de vous rappeler les news. Mais donc voilà, n'hésitez pas à voter dans les épisodes podcast et les best-of, surtout, je vais m'en sortir. Comme ça, ça nous permettra de rebondir sur l'actualité, vous, qui vous a le plus passionné, et d'y revenir dessus avec un petit peu plus de précision. Voilà, on se dit à la semaine prochaine, mercredi prochain. D'ici là, bah, cliquez bien, jouez bien, et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.
Salut.